Bonjour à tout le monde. Donc, moi, je suis présidente et cofondatrice du TMN Lab, effectivement, qui est une communauté de pratique qui a d'abord démarré de manière très informelle, puis qui s'est formalisée avec un statut associatif, mais qui reste tout de même dans un fonctionnement informel, qui réunit à peu près 400 professionnels travaillant dans des théâtres en France et à l'étranger, principalement en France, mais on a quelques personnes qui travaillent à l'étranger, et qui tente de réfléchir à la transformation du secteur, de notre secteur, de nos métiers, de nos institutions à l'ère numérique. Donc moi, ce que je vais vous apporter, c'est cette vision, comment on a construit du coup une vision de ce que veut dire transformation numérique du secteur. On sera dans des exemples moins concrets que les deux personnes qui ont parlé avant moi. Il y aura certainement un peu de frustration, surtout que la présentation là, sur laquelle je vais m'appuyer, c'est une présentation qu'en général je fais en 3 heures. Donc voilà, elle va être extrêmement express, mais je vais vous donner aussi tous les éléments pour pouvoir poursuivre et approfondir, si vous le souhaitez, les sujets que je vais aborder. Donc, la transformation des théâtres à l'ère numérique, du coup, pour moi, ça va être de... je vais faire un pas en arrière, en gros, pour essayer de vous expliquer comment on est venu à... comment on a abordé cet objet, comment on est venu à construire des convictions et un discours autour de cette question-là. L'approche du TMN Lab, c'est une approche de terrain, c'est une approche donc pratique, hein, donc communauté pratique, qui est vraiment venue par d'abord des gens qui travaillaient sur le terrain, beaucoup sur des questions de communication, qui ont été les premiers impactés sur la question numérique, parce qu'immédiatement, c'est là que le changement d'outils et d'équipements était le plus flagrant. Mais le TMN Lab, en 7 ans, parce que ça fait 7 ans qu'on existe et qu'on organise des rencontres professionnelles et qu'on anime un espace de ressources en ligne, on a pris beaucoup de hauteur sur cette question et c'est devenu, même si on continue à travailler sur la question opérationnelle, une question stratégique de transformation d'institution. Le point de départ pour nous, donc, c'est tout le travail qu'on fait de rencontres, d'échanges, avec une vingtaine de rencontres à notre actif. Alors là, on va faire 20e rencontre TMN Lab, qui sont des journées de rencontres professionnelles, 3 fois par an à peu près, aujourd'hui, plus beaucoup d'interventions dans des rencontres professionnelles assez régulièrement. Donc voilà, vous avez un peu une image de tout ça. Et puis, notre travail s'est aussi appuyé sur une enquête. C'est-à-dire qu'en fait, assez rapidement, quand on a commencé à travailler sur ces questions, même si on avait d'abord vocation à créer du lien dans le secteur entre les professionnels, on voulait quand même avoir un point de départ concret et une approche plus scientifique de la question. En tout cas, un état zéro. Donc, en 2016, nous avons publié l'état des lieux du numérique dans les théâtres, auquel vous pouvez avoir accès. C'est une publication open source. Toutes les données sont disponibles en open data, donc vous pouvez encore accéder à l'ensemble des données. L'enquête a eu lieu en 2015, donc elle date. Nous aimerions la refaire en 2020, mais elle donne quand même un socle de départ pour pouvoir ensuite travailler sur cette question-là dans le secteur. Cette enquête, vous la trouvez en ligne, je ne vais pas rentrer dedans en détail parce qu'on n'aura pas le temps, mais vous la trouvez donc sur le site internet du TMN Lab avec une version infographie et une version plus détaillée. Cette enquête, elle nous a permis de voir quelle était la pénétration de la question numérique dans les institutions. D'un point de vue pratique, mais aussi d'un point de vue managérial. Parce qu'une des questions que je vais aborder là avec vous, c'est que pour nous, la question de la révolution numérique dans les institutions en général, mais en fait, d'un point de vue sociétal, c'est une révolution aussi managériale. C'est une révolution de l'organisation dans ses modes de travail, dans ses modes de gouvernance aussi. Et donc, ce sont des questions qu'on a commencé à aborder en 2015 dans l'état des lieux, notamment en interrogeant des questions de formation et d'accompagnement à la transformation, mais qu'on abordera beaucoup plus en 2020 avec, du coup, l'expérience qu'on a pu acquérir sur le terrain. Donc, dans notre état des lieux, on a pu aborder des questions, évidemment, de métiers, comment le numérique a pénétré l'organigramme des structures, comment des politiques de formation accompagnent ou pas la transformation du secteur, comment la transformation numérique en termes de services aux spectateurs s'est faite. Par exemple, en 2015, l'état des lieux montrait que seulement 77% des théâtres avaient une billetterie en ligne. Alors que ça paraissait assez évident, non, on avait quand même 23% des lieux qui n'étaient pas encore équipés. On avait même des lieux qui n'avaient pas de site internet, ce qui est encore le cas aujourd'hui, notamment des théâtres, par exemple, en régie directe, qui sont encore soumis à un hébergement de leurs données sur le site de la ville, donc avec une marge de manœuvre en termes d'impact de communication numérique extrêmement faible. Donc voilà, ça je vous inviterai à aller regarder si vous souhaitez creuser. Et encore une fois, nous on en a fait une lecture. Cet état des lieux, on l'a mené en partenariat avec l'Université de Rennes 2. C'était un préalable à la création du master médiation du spectacle vivant à l'ère numérique. On l'a donc mené en Nous, on faisait la direction pour le TMN Lab, la direction scientifique, c'était notamment Marion Denisot. Et on a travaillé avec eux sur un financement du ministère de la Culture qu'on avait demandé. Donc ça, voilà, je vous invite à aller regarder. Ça a été pour nous un point de départ qui nous a permis d'identifier des enjeux, et notamment la question de la formation continue et initiale. Tout ce travail, les rencontres qu'on a fait, les observations, les échanges qu'on a pu avoir au niveau national, aussi international, aussi avec des chercheurs, avec des universités, nous a permis d'identifier des grandes forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces. Ce tableau est très court, évidemment. Je n'ai mis que quelques points qui vont nous permettre de rebondir par la suite de la présentation, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. En bref, quelques forces. Le contenu. En tant qu'institution culturelle, la question du contenu, elle est très forte chez nous, grâce aux œuvres, grâce aux artistes. La question des données disponibles aussi. On est un secteur qui produit beaucoup, beaucoup de données, beaucoup de savoir, beaucoup de données en termes quantitatifs, de contenu, d'images, etc. On a un maillage territorial très fort. Et la question de la révolution numérique, en fait, elle ne se joue pas qu'en ligne. Elle se joue évidemment sur le territoire. Et donc, le maillage très fort des théâtres en France, pour nous, est une grande force dans la question de l'appréhension de comment le numérique peut profondément changer son rapport au territoire et aux spectateurs. Donc ça, ce sont pour nous les forces de ce secteur. Les faiblesses, la question de la culture numérique, la faible pénétration de la culture numérique au sein des institutions. C'est-à-dire que la question de la révolution numérique pour nous, la révolution numérique est une révolution sociale et sociétale qui est très mal appréhendée par les professionnels dans les lieux, qui est très mal appréhendée aussi par nos tutelles en général. Et donc, c'est difficile d'aborder cette question de la transformation de l'intérieur et donc de la transformation du rapport aux usagers parce que c'est une culture qui n'est pas ancrée. Et donc, déjà, le premier travail à faire avant d'entamer cette complète transformation du secteur, c'est une acculturation des professionnels. Donc pour nous, ça, c'est une faiblesse qu'on a observée. La question de la place pour l'innovation hors plateau, le positionnement du TMN Lab est très clair, c'est qu'on aborde la transformation numérique du point de vue de l'institution et des métiers, non pas du plateau. En fait, on a créé le TMN Lab parce que justement sur cette question de l'innovation numérique, on avait pu identifier de la littérature autour de la question de la création plateau. Les artistes se sont saisis de la transformation numérique il y a très longtemps, ont été très créatifs sur ces questions, se le sont encore, alors que backstage, du côté des bureaux, des administrations, de la communication, de la médiation, mais pas seulement, de la production, des métiers techniques, la transformation est venue beaucoup plus tardivement et a eu beaucoup moins de place pour s'exprimer. Et c'est pour ça notamment qu'on a créé le TMN Lab, et il n'y a pas tellement d'initiatives aujourd'hui en France qui abordent la question de manière aussi structurée du numérique ailleurs qu'au plateau, en fait, que le TMN Lab. Donc la place de cette innovation, elle est difficile à prendre. Elle est difficile à défendre au sein des lieux. Il y a des directions qui commencent à l'intégrer dans leur projet de direction, mais assez peu dans le fond. Peu en font un enjeu stratégique. Et d'un point de vue politique aussi, ou des collectivités, c'est aussi encore assez difficile. Il y a des lieux, qui montrent le chemin, mais on a encore un énorme travail à faire. Et la question de la structure organisationnelle, la question de la structure, comment fonctionnent les organisations du travail en général, en fait. Et là, on dépasse largement la question des théâtres. Hein. C'est une question de la révolution des modes de travail aujourd'hui et des organisations. Ce sont des structures souvent très pyramidales qui ne favorisent pas l'innovation, la circulation, la créativité et cette appropriation, la question numérique. Donc voilà un peu pour les grandes faiblesses qu'on a pu identifier. Les opportunités qu'on a pu identifier sont la formation, évidemment, la question de la mutualisation qui existe déjà à plein d'endroits mais qui peut être amplifiée notamment à l'ère numérique, mais c'est encore quelque chose de très balbutiant, les partenariats qu'on peut faire autour de cette question de l'innovation. Et là, on a des exemples assez intéressants de lieux qui essayent, par des partenariats, vraiment de franchir ce cap de la transformation digitale. Et puis les menaces, notamment la question de la propriété des données. La question de l'algorithme versus la diversité et la question de la pression économique liée à la transformation digitale. La propriété de données, donc on le voit, l'enjeu de la data, c'est un enjeu dont on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler, qui n'est pas tout à fait clair au sein des lieux, qui ne fait pas encore l'objet d'une politique publique, claire non plus au niveau national. Il y a des tentatives qui sont faites, mais pour l'instant, la structuration, en tout cas en 7 ans d'observation par le TMN Lab, dois dire que c'est une grosse déception, en fait. C'est-à-dire qu'on a beaucoup suivi des projets de autour d'une question vraiment d'une prise en compte politique de la donnée, de qu'est-ce qu'on peut en faire pour autonomiser les lieux, mieux développer la relation publique, prendre en main vraiment les enjeux de la question de la prescription notamment. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réponse à porter. Et la question de la prescription et la question de la diversité aussi, de l'offre culturelle, qui est notre métier en tant que structure publique, face à l'ère des algorithmes aujourd'hui, et donc de la recommencer la prescription et la consommation culturelle, il y a quelque chose de très inquiétant qui se passe. Et donc il y a une question politique extrêmement importante qui doit être prise en compte. Et c'est un des sujets qu'on veut défendre plus ardemment à partir de 2020 au sein du TMN Lab. Et puis la pression économique, ça vient aussi de cette question de la diversité des contenus culturels, des comportements qui changent, en même temps de plus en plus de consommation, mais un élargissement aussi du bassin possible de consommation. Aujourd'hui, quelqu'un va à l'opéra, va au théâtre public, va écouter Beyoncé en même temps. Il y a un temps, en fait. Il y a la question de l'argent, il y a la question du temps aussi. Il y a la question de l'heure, de la représentation par rapport au comportement aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions comme ça qui se posent. Et puis la pression économique, parce que les lieux sont de moins en moins financés, et que même s'il y a des spectateurs habitués qui continuent à avoir un pouvoir d'achat, ça n'est pas le cas de tout le monde, c'est quelque chose qui va plutôt dans le mauvais sens. Donc voilà un petit peu, en bref, ce SWOT. Donc ce SWOT, c'est un tableau d'analyse plutôt outil marketing qui est réutilisé, qui peut être utilisé pour la gestion de projet, mais qui vous pose un peu des enjeux sur lesquels nous travaillons au sein du TMN Lab. Alors, il est 15h11, je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Donc, les grands points que j'ai identifiés par rapport au tableau qu'on vient de voir et ce que je vous ai dit, c'est donc l'impact sur l'organisation, l'impact sur la médiation et l'impact sur les données. Je cite Daniel Janto, qui fait un travail très intéressant, notamment au T2G, sur la question du lieu et sur la question de la médiation du lieu. D'ailleurs, je vous invite à regarder si vous n'avez pas visiter le lieu avec ce regard-là, ce qu'ils font. Donc, comment on se réinvente en tant qu'institution dans cette problématique, dans cette période qu'on vit, dans ce changement de société ? Je vous parle de cette question de la révolution appréhendée, c'est-à-dire qu'on est donc dans une... On estime que on est dans un secteur qui vit quand même encore un peu dans une bulle, d'une certaine manière, et on le remarque nous-mêmes, et qu'on a du mal à se connecter à ce changement donc sociétal qu'on observe autour de nous. Et l'idée, c'est comment on arrive à tout d'un coup réouvrir, en fait, des manières de faire à des méthodologies qui évoluent dans d'autres secteurs. Comment on change la manière de travailler en interne, notamment, pour pouvoir repenser notre rapport au territoire, notre rapport aux usagers et notre manière de faire. Donc il y a la question de d'abord comprendre là où on se situe. Et ça, c'est ce qu'on essaie d'apporter au sein du TMN Lab par une observation et par la veille qu'on fait. La révolution numérique, c'est quoi ? C'est notamment la question de l'empowerment, qui est très important et qui reviendra dans le sujet de la médiation que je vais aborder après. Mais c'est cette question et qui a été évoquée dans les présentations précédentes sur la question qu'aujourd'hui, ça remet en avant cette révolution numérique, la capacité de l'usager à s'émanciper et à développer son savoir seul, en tout cas avoir un accès direct à la connaissance, à la culture, et comment notre place de médiateur du coup se déplace. Comment notre place de médiateur devient moins celui d'une médiation plus peut-être un peu descendante entre l'œuvre et le spectateur potentiel, mais comment en fait on devient un espace de médiation beaucoup plus horizontal, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, entre les publics, les usagers d'un territoire, les œuvres, mais aussi le lieu dans lequel on travaille. La question de la médiation, d'ailleurs, pour nous, elle se déplace, la médiation culturelle, la médiation de l'œuvre, elle se déplace et s'élargit autour de la médiation au lieu, très forte, qui prend beaucoup d'importance aujourd'hui, et la médiation de l'expérience plus globalement. C'est aussi des endroits où, tout d'un coup, on vient rencontrer des questions comme le marketing et le marketing culturel. Et bien sûr, donc c'est pas la question de comment on va réadapter un produit à un public, hein, mais bien comment on va créer les conditions de rencontre avec l'œuvre. Donc la question de l'encapacitation de ce public, mais aussi ça veut dire de le considérer différemment. Et vous verrez dans la partie médiation que c'est donc d'inventer aussi des nouvelles formes de relations à ce public. Et pour nous, ça, même si dans le fond, ça se traduit de manière pas toujours numérique sur le terrain, dans les projets qui sont menés, c'est quelque chose qui, si ça existait avant, a été profondément accéléré par le numérique. Ça vient notamment, pour la petite aparté sur la question numérique, de quand on voit la constitution de communautés en ligne, tout le développement de l'open source et de la co-création, par exemple, et tous ces mouvements qu'on observe d'intelligence collective en ligne qui se retraduisent sur le terrain. Et ce sont des nouvelles manières d'appréhender le savoir, le faire ensemble, en fait, sur lesquelles les structures culturelles commencent à se positionner de manière très intéressante. La révolution numérique a l'impact aussi, donc il y a la question de l'intelligence collective dont je vous ai parlé, la question de la mobilité et du présentiel dans la consommation culturelle, la place du théâtre et cette particularité du vivant et de la rencontre en face à face à un temps donné, forcément se retrouve confrontée à des modes de consommation extrêmement différents qui vont évoluer de plus en plus vite, où on a une hyper disponibilité de l'offre dans son téléphone, sur son ordinateur, à la maison, avec des podcasts, et que toute cette diversité rend notre place plus fragile. En même temps, du coup, nos particularités et nos forces encore plus intéressantes, parce que la question du retour à présentiel, elle revient tout le temps. Observons par exemple, dans la question de la transformation digitale, les pure players. Là, ça ne marche plus, je crois. Les pure players, donc quand on parle de pure players, c'est des entreprises qui ont développé des services uniquement sur Internet. Je parle par exemple de... ça marche là. Par exemple de Deezer. Deezer, donc plateforme numérique. Et bien Deezer, au bout d'un moment, ils ont compris qu'ils avaient absolument besoin d'exister en vrai. Et Deezer a commencé à faire des concerts. C'est-à-dire qu'en fait, même les pure players ont besoin toujours de revenir à de l'ancrage, à de la rencontre, à un instant T. Et donc cet endroit où on se disait que peut-être les théâtres avaient une difficulté du fait qu'ils ne dématérialisaient pas la rencontre avec le spectateur, en fait, on se rend compte que ça peut être une grande force. Mais là, la question de la médiation du lieu doit redevenir encore plus centrale, parce que ça fait partie d'une expérience globale qu'on va proposer, qui redevient d'autant plus importante dans la société dans laquelle on vit. Donc la question de la mobilité, du présentiel, qui sont des difficultés. Et la mobilité, parce que se déplacer est difficile, et quand un déplacement est difficile, si on a une hyper offre, on va encore moins se déplacer. Et donc il y a des projets intéressants qui sont menés dans beaucoup de lieux autour de cette question. Et pour nous, ça fait partie d'une dimension de médiation, en fait, de prendre ça en compte dans le parcours du spectateur. Donc les pratiques, on en a parlé, l'hyper offre, on en a parlé, et ces questions de nouvelle économie et de modèles économiques. La gratuité sur Internet pose question, la gratuité dans la consommation culturelle, légale ou illégale. Comment on repositionne une offre aussi, qu'on la rend désirable, comment on revalorise la création artistique aussi à cet endroit-là, et comment, dans cette dynamique-là, on arrive à continuer à proposer des choses aux spectateurs qui font sens dans un modèle économique à réinventer. Toujours sur cette question de l'organisation, donc là on parlait de comment ça pose beaucoup de sujets que les structures doivent s'approprier en fait, vraiment pour pouvoir y apporter une réponse personnalisée et propre à chacune. Là je vous mets quelques éléments sur cet endroit de refonte du travail qui se pose beaucoup à l'ère numérique pour nous, donc c'est la question, et notamment vous parliez de participation, évidemment participation, coopération, comment en fait en pensant la question de l'horizontalité de la relation avec les publics, comment se la poser vraiment si on ne se la pose pas en interne? Et ça, c'est aussi un sujet qu'on amène dans les discussions qu'on mène avec les lieux, c'est-à-dire que cette question de l'horizontalité, elle se passe aussi au sein de la structure. Et du coup, on a mené un travail, on est allé observer cette transformation digitale des organisations, passe souvent par une transformation managériale, un développement de l'horizontalité dans les modes de management, meilleure circulation de l'information, autonomisation, incapacitation, empowerment des professionnels autant que des usagers. Et ce chemin, pour nous, on estime qu'en fait, il fonctionne beaucoup quand il se fait en parallèle, ou en tout cas par étapes successives, et qu'il y a une vraie cohérence de se réinterroger aussi en interne pour efficacement réinterroger le rapport à l'externe. Et du coup aussi créer de la porosité dans les prises de décision et des questions de gouvernance. Où est la place des publics, par exemple, dans des processus de décision, dans des créations de politiques de communication en relation avec le public, pourquoi pas dans des choix de programmation. Et on se rend compte, assez récemment, dans le fond, la question des droits culturels, qui a été formalisée en 2007 de mémoire, en fait, vient complètement rencontrer la question de la révolution numérique et de l'empowerment. Et on a observé du coup, il y a des démarches très intéressantes qui se passent dans des lieux, certains qui se réclament du coup des droits culturels, par exemple à l'Agora, au théâtre de l'Agora, qui expérimente notamment par exemple de la programmation avec des enfants, autour de la programmation jeune public, et qui mène beaucoup de projets situés et qui lui se réclament de droits culturels, et à d'autres endroits qui vont se réclamer de la révolution numérique et des nouveaux modes de relation aux usagers pour mener des projets semblables. C'est assez drôle cette convergence en fait qu'on a pu observer. Donc voilà, où se place la relation à l'usager, la relation publique, la relation territoire, qui est l'usager? On pose aussi la question, qui est l'usager des théâtres? Les publics, les non-publics, les partenaires, les gens qui y travaillent. Et donc, comment cette relation, cette horizontalité, elle doit être pensée à tous ces niveaux-là? Évidemment, l'artiste aussi. C'est vraiment cette relation. Et donc, on va vers des lieux qui pensent de manière plus ou moins globale, cette transformation. Là, je vous montre trois exemples, il y en a d'autres. Par exemple, sur la question de la transformation managériale, je vous invite à regarder du côté du Grand T, qui est un de ceux qui a le plus abouti sa transformation, avec un vrai accompagnement de ses équipes. Là, je vous cite par exemple l'avant-scène, qui a mené un travail avec l'UBIC autour de la question de la transformation de la relation aux usagers, et les discours de Stéphane Jean, mais qui d'ailleurs collabore ici, je crois, à un projet de recherche, sont très intéressantes sur les nouvelles formes de médiation, les nouvelles formes d'interaction avec les publics et avec ces territoires. Le VOR 8, là on est en Belgique, le VOR 8 qui a aussi essayé de repenser qu'est-ce que ça veut dire être une institution à l'ère numérique et être dans une forme de coopération avec des points négatifs et positifs à chaque fois. Par exemple, le VOR 8, j'ai pas pu les échanger avec eux en direct, mais j'ai eu des retours sur beaucoup de turnover dans l'équipe, par exemple. Parce que la transformation, ça n'est pas anodin. La transformation, ça peut être violent pour les publics comme pour les équipes. Donc, ce n'est pas non plus des injonctions, juste des endroits de réflexion. Au Grand T, il y a eu un accompagnement sur 9 ans pour en arriver là où ils en sont, et avec un accompagnement externe, par exemple. Et donc, le VOR 8, le positionnement intéressant, c'est de se dire qu'en fait, l'institution culturelle devient une plateforme. Et c'est une plateforme qui vient faire rencontrer ses usagers, quels qu'ils soient, les équipes, les publics, les artistes. Et donc, par exemple, la programmation VOR 8 ne se fait qu'en coproduction. Il n'y a plus d'achat, il y a plus de session, en fait. Et donc, il y a des temps de résidence, il y a des temps de présence sur place et de la co-construction de projets. Et le public vient aussi, peut y programmer des choses et peut louer les salles pour des prix très accessibles. Donc, c'est vraiment un positionnement. Et le directeur du VOR 8, par exemple, ne se dit plus directeur, il se dit coordinateur. Donc, ça, c'est aussi des endroits intéressants à aller explorer et à approfondir autour de cette transformation de la relation à l'ère numérique. Et puis, le collectif La Horde, sur cette question de l'institution de la culture post-internet. Au niveau des théâtres, on n'a pas forcément encore avancé sur ce sujet. Enfin, je n'ai pas identifié de projet extrêmement avancé. L'avant-scène en porte un et commence à travailler sur un projet autour de la question du théâtre post-internet. Mais La Horde, par exemple, ce collectif qui va s'inspirer des pratiques des usagers en ligne pour nourrir ses propres créations et qui créent des spectacles ensuite avec des gens qu'ils ont pu repérer sur la toile. Ils créent ensemble des nouveaux pas, des nouvelles formes, des nouveaux gestes artistiques, qui ensuite recréent des spectacles, puis recréent du contenu en ligne. Il y a un cycle qui se crée entre les mouvements autour de la danse en ligne et eux, leur propre création. Ce sera intéressant de suivre ce qu'ils vont faire en tant que direction du CCN de Marseille. Donc voilà, on voit tous ces espaces de transformation de l'organisation qui peuvent revêtir des modalités extrêmement différentes, mais on sent ce changement profond qui se passe à plein d'endroits. Et encore, je vous dis, souvent, ils viennent plutôt du terrain, ils viennent plutôt d'initiatives de gens qui sentent qu'il y a un besoin, des médiateurs, des communicants, des gens à la production. Mais de plus en plus, ils commencent à être portés assez haut dans les hiérarchies des équipes et aussi par des directions qui posent des vrais actes de transformation de leur lieu et de leur rapport, du coup, au territoire. Sur la question de la médiation, je reviens à cette question de connexion, itération, encapacitation. On est dans cette question de quelles sont les modalités d'accès à l'œuvre, quelles sont la modalité d'accès à la proposition au théâtre, mais au lieu aussi et à la programmation. Et donc, on a pu observer différentes actions qui ont été menées. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails encore pour des questions de temps, mais en gros, dans les questions de connexion, comment on arrive à... Parce qu'on développe une culture numérique, on comprend les usages autour des différents outils et on arrive à les appréhender, se les approprier pour proposer des choses dans le développement de la relation publique. Alors je vous montre quelques exemples, minimal tech, high tech, parce que le numérique, ce n'est pas que de l'high tech. Et ça, c'est très important. On peut avoir des approches numériques et des approches d'innovation en faisant du low-tech, en ayant des petits budgets. Mais c'est vraiment une question de compréhension d'où se passent les enjeux, les modalités d'appropriation. Et là, les minimal tech, je vous cite par exemple deux exemples que je trouve chouettes. Alors, il y en a un, je le trouve chouette, c'est moi qui l'ai fait, donc c'est facile. L'autre, c'est pas moi, c'est d'observation. Le premier, c'est WhatsApp. Et par exemple, on avait des problématiques le jour de l'ouverture des abonnements, avec une queue qui démarrait à 7h du matin pour une ouverture des portes à 11h. 80 personnes qui attendaient dehors et ont une capacité de faire passer à peu près les gens 4 par 4. Pas de proposition d'abonnement en ligne parce que ça ne marchait pas encore. Donc vous imaginez un petit peu l'état de tension à l'ouverture sur cette première journée d'abonnement pour les équipes comme pour le public. Et il fallait gérer la file d'attente dans le hall du théâtre qui est une verrière au mois de juin. Je vous passe les détails. On offrait beaucoup de boissons et de la bière l'après-midi. Et donc la troisième année, en fait, j'ai proposé de déployer une file d'attente WhatsApp. Et en fait, on a ouvert un compte WhatsApp sur un numéro de portable du théâtre et on a proposé en amont à nos spectateurs de s'inscrire sur cette file. Mais aussi, le jour J, quand ils arrivaient en faisant la queue, on leur proposait de s'inscrire dessus. On a fait de la médiation numérique, parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissaient pas WhatsApp. La plupart avaient des smartphones, donc s'il y avait besoin, on accompagnait les gens à installer l'application et on les faisait rejoindre le groupe nous-mêmes. Et tout ce que ça leur a permis de rentrer chez eux au lieu d'attendre 4 heures sur place. Et en fait, on appelait les numéros dans la file WhatsApp. Et les gens savaient que si on était au 34 et qu'ils étaient 42, il était peut-être temps de revenir. Voilà. Et donc, le déploiement de cet outil qui nous a coûté du temps, il a fallu penser la manière de le faire et évidemment prendre le temps d'accompagner les gens là-dedans, a permis de faire que cette journée, qui chaque fois était une torture, autant pour les publics que pour l'équipe, d'en faire un jour qui s'est extrêmement bien passé, où les gens nous ont remercié. La file WhatsApp, d'ailleurs, on a eu plein de cœur et d'amour dans les messages, c'était formidable. Et donc, de simplifier en fait... et d'améliorer la qualité de service qu'on offrait et d'améliorer l'expérience pour eux comme pour nous. Alors la deuxième année, on a eu des problèmes de billetterie. On a remis le même système en place. Alors la file WhatsApp a permis de déverser beaucoup de colère pour les publics. Donc là, c'était un peu plus douloureux, mais en même temps, ça nous a permis d'y répondre. Parce que si la file WhatsApp n'avait pas existé, cette colère, elle aurait juste été... en bouche-oreille, on n'aurait pas pu intervenir. Là, on a pu répondre au fur et à mesure et on a pu recontacter toutes les personnes dans les 48 heures qu'on suivit pour assurer un accompagnement et une médiation après-crise. Donc, c'est un enjeu hyper important. Le numérique, c'est aussi un espace qui nous permet de tracer des actions et donc d'y répondre et d'être présent. Ça me fait penser, par exemple, au projet Transmédia, où c'était difficile de chiffrer derrière. Un projet Transmédia comme ça, assorti d'une vraie politique de communication digitale, avec un peu d'investissement, pas forcément beaucoup, de pixels, de suivi, etc., permet d'apporter des chiffres concrets à une action comme celle-là. Le Skype, là, c'est par exemple la scène nationale 61, qui a une problématique d'implantation rurale, avec 3 lieux espacés d'une heure de voiture chacun, et qui organisait des cafés numériques, des rencontres avec les artistes dans des lieux, dans des territoires ruraux, éloignés des lieux où étaient programmés les spectacles. En plus, on le sait, les artistes ne sont pas toujours sur place de toute façon. Et en fait, ils ont utilisé Skype. Et donc, les équipes de relations publiques venaient dans les cafés, organisaient des rencontres et grâce à Skype, emmenaient les artistes avec eux dans leur sac. Et ça a permis de créer des rencontres à des moments où, l'artiste il peut être à l'autre bout de la France, il peut ne pas être là, mais tout d'un coup, il va avoir ce temps de rencontre et d'échange, et ça fonctionnait très bien. En plus, on pouvait boire une bière en même temps, encore une fois, et donc c'était très agréable pour les gens. Donc, vous voyez comment on peut, tout d'un coup, en pensant l'utilisation basique, en fait, d'outils, mais parce qu'on les connaît et qu'on a pu se les approprier, on peut connaître aussi un peu la typologie des gens qui les utilisent et comment on peut rendre facile ou pas leur usage. Et tout d'un coup, on arrive à les utiliser en médiation, en communication, en service. Ensuite, en high-tech, là, vous voyez, vous pourrez aller creuser des lunettes. Donc là, ce sont des lunettes... Celles-là, elles sont françaises, mais il y a aussi un projet à Londres qui existe. Celui-là, c'est Théâtre in Paris. Et là, c'est comment, grâce au numérique, on renforce l'accès à la culture. Le projet Théâtre in Paris fait du surtitrage en live des spectacles. Et donc, ça permet à des publics étrangers de voir des spectacles quand ils viennent en France. Et ça a été notamment utilisé sur une année en expérimentation au Festival d'Avignon pour des publics chinois de mémoire et japonais. À Londres, la version ces lunettes, elle est développée pour l'accessibilité des publics sourds. Et donc, dans le cadre d'un mécénat, ils ont monté une sorte de start-up, c'est un projet d'entrepreneuriat entre un théâtre et des fonds qui mécènent le projet. Et ils ont pu développer un projet d'innovation sur l'accessibilité qui pourra être déployé le plus largement. Vous avez l'Opéra de Rennes. Et l'Opéra de Rennes, là, c'est pareil sur des partenariats publics-privés, notamment montés avec Orange sur la division de l'Ouest. Ils ont pu monter des process de diffusion en direct des spectacles avec des niveaux très exigeants de qualité de captation et de diffusion. D'abord pour diffuser à l'extérieur du théâtre, dont tout d'un coup on augmente la taille de la salle de manière exponentielle en offrant une expérience où le public, certes, il ne voit pas l'œuvre en vrai, mais il vit l'expérience de public en commun face au théâtre, et donc il y a quand même une rencontre et un moment T qui se crée. Et en plus, ils ont pu le développer jusqu'à le faire dans 20 ou 25 villes en même temps, le numérique permettant ça, et donc plusieurs collectivités qui se réunissent autour d'un temps fort, autour de la diffusion d'un opéra. Une journée au théâtre, là on est sur... Ah oui, ça c'est une visite virtuelle dans l'Oculus Rift. En bas, vous avez le Théâtre sans animaux en projet transmédia monté par les Nouvelles Écritures, département de France Télé. Et Entendez les nuits, on est encore au Théâtre des Champs-Élysées sur une captation 360 du son. Comment, grâce à la technologie, on peut reproduire aussi des sensations d'écoute qu'on a dans une salle. Donc on voit en fait qu'il y a vraiment des recherches très intéressantes qui sont menées en termes technologiques, et que ces espaces de partenariat public-privé doivent être occupés par les structures culturelles et les politiques, et pas seulement laissés au privé. Il y a vraiment des choses assez riches à faire. Donc voilà pour les enjeux. Et puis, donc, je vous disais, la question de l'itération, donc ça c'est comment on déclenche par des nouvelles méthodologies de travail la créativité. Donc on parle des méthodologies design et d'itération. Vous aurez des informations sur le design thinking, notamment appliqué au secteur culturel et public sur le site du TMN Lab. Là on a Pénélope, qui est un très bel exemple effectivement de projet dans une structure culturelle. Et on va jusqu'à la question des espaces hybrides de partage de savoir et de culture, la question des tiers-lieux, qui replace l'usager à un endroit producteur au sein même de l'institution culturelle, et pas seulement en dehors. La question de l'émergence des tiers-lieux, elle répond à cette mutation des usages, notamment liée à la révolution numérique, même si les tiers-lieux existaient avant. Il y a une accélération des modèles de tiers-lieux, une accélération des interrogations, des expérimentations dans les structures culturelles qui coïncident à cette révolution numérique. On va devoir conclure. Donc la question des données, je ne vais pas pouvoir l'aborder, mais en gros, on est sur un endroit où les données, on est dans une logistique balbutiante, je vous le disais. Il y a des enjeux de relations publiques, il y a des enjeux de politique, il y a des enjeux d'accès à l'information, il y a des enjeux de pilotage de structures culturelles que vous pourrez aller creuser par différentes publications dont je vous donnerai les références. En tout cas, on voit que le champ de la question de la révolution numérique pour l'accessibilité au public, mais aussi pour la révolution des usages au sein des structures, est encore à faire. Et donc, on espère au sein du TMNA pouvoir... contribuer de plus en plus activement à cette transformation et cette appropriation par le secteur. Voilà, merci.